Chapitre 3. Un jour que Madame Van Gunn prenait du thé chez son neveu Wilhelm, c'était la seule maison où le deuil de ces dames leur permit de paraître, elle dit que sa santé l'obligerait à prendre les eaux de Cheltenham en Angleterre. On fut peu étonné de cette résolution. Pierre Van Gunn était à la veille de faire le voyage d'Angleterre avec sa femme et sa fille lorsqu'il avait été enlevé par une mort prématurée. Madame Van Gunn ajouta qu'après un séjour de quelques mois en ce pays, elle songerait à revenir à Königsberg, peut-être en passant par Paris. Les jeunes beaux et le général Van Landeck parurent atterrés de cette phrase qui avait tout l'air d'une déclaration officielle. Deux des plus hardis observèrent, osèrent bien vite dire que aussi devait aller en Angleterre pour voir les courses et acheter les chevaux. Quelques jours après, Mina et sa mère partirent pour Londres, mais arrivées à Hambourg, elles trouvèrent qu'un si long trajet de mer était impossible et prirent bravement la poste pour Calais, c'est-à-dire pour Paris. Le banquier hambourgeois, correspondant de la haute maison Wingen, avait la plus haute considération pour la veuve de Pierre Van Gunn et surtout pour une fille dont la dot montait à 7 millions. Voyant les dames Van Gunn déterminées à aller passer 3 mois à Paris, il leur procura d'excellentes lettres de recommandation. Monsieur le chargé d'affaires de France à Berlin, fort lié avec le banquier de Hambourg, recommanda ces dames à sa famille et même au ministre des Affaires étrangères. Pour débuter sur un bon pied auprès de la Banque de Paris, Madame Van Gunn prit un crédit de 100 000 francs par mois. C'était bien l'Allemande la plus gaie, la meilleure, mais elle savait l'art de se faire bien venir. « Nous allons donc voir cette jolie France, maman !» s'écriait Mina, ivre de joie. « À Paris, nous serons comme tout le monde. En Prusse, nous n'aurions jamais été que des êtres inférieurs. La femme et la fille d'un marchand, c'est tout. » Mais, chère Mina, tu calomnies un peu ton pays, répondait Madame Van Gunn. Tu sais bien que le comte Van Lamnex porte pour amoureux de toi, qu'un autre comte de Berlin, fort riche et plus jeune encore, nous a fait faire des propositions honorables. Oui, oh, ce jeune comte qui veut devenir ministre, j'entendrai plaindre mon mari d'avoir été réduit par ses projets de haute ambition à épouser une petite bourgeoise. Il faudrait rougir à chaque instant. Et je ne sais pas si mon futur mari n'entreprendrait pas de te marier aussi, toi, ma chère maman, à quelque noble, afin de n'entendre pas ce simple nom de Madame Van Gunn répété sans cesse par ses laquais à ton entrée dans nos salons. Cette idée ferait peut-être de moi une mauvaise femme. Je verrais un rival dans mon mari, mais très certainement, elle me rendrait malheureuse et par conséquent, tu le serais aussi, maman. Mais je ne pense jamais à l'orgueil, ma chère amie, et je ne fais attention qu'aux positions réelles. D'ailleurs, je suis tout accoutumé à n'être qu'une riche bourgeoise. Et pendant 10 ans, quand ton père a commencé, je n'étais même qu'une bourgeoise, tout simplement. Oui, mais dans ces temps-là, la guerre n'était pas déclarée entre la noblesse et le tiers-état. Quel drôle de mot, s'écria Madame Van Gunn, le tiers-état. Oh, tu vas bientôt oublier ta bonne langue allemande. Les récits du général t'ont ensorcelé. Oui, c'est une faiblesse, je l'avoue, mais je suis choqué des façons de parler de nos Prussiens. Quand je parle français, il me semble que je me soustrais au poids de ce monde allemand qui m'étouffe. Les récits du général m'ont fait penser qu'à Paris, une jeune fille qui sait 3 ou 4 langues et qui peut offrir autant de millions à son mari n'est inférieur à personne. Oh, convient que ce pauvre conseiller spécial Eberhard t'a donné un peu de ses préjugés en faveur de la France. Mais depuis 40 ans, les Français pensent et agissent pour tous les peuples de l'Europe. La haine qu'on leur porte prouverait à elle seule leur supériorité. Allons voir ce grand peuple chez lui. Ah, tu es bien jolie, ma bonne Mina. Notre départ aura fait le bonheur de toutes les jeunes filles à marier de la Prusse orientale. Tu es savant, tu as de l'esprit à ravir. Tu as 5 millions de leurs francs comptants et 2 dont j'ai la jouissance, mais je suis effrayé de ton esprit. Et ce qui me semble comble mon effroi, c'est que jamais je n'aurai le courage de te résister en rien. Par exemple, cette idée de nous transplanter à Paris sans en dire un mot à personne. Et nous arriverons dans un pays où nous ne connaissons âme qui vive, mais qu'allons-nous devenir? Mina triompha dans la réponse à cette objection. Les libraires qui font des collections des chefs-d'œuvre de la langue française, pour ne pas payer le droit d'auteur ou pour d'autres raisons, n'admettent dans leurs collections que des ouvrages d'auteurs morts depuis longtemps. Et Mina se faisait une image charmante de la société française. Les comédies de Marivaux, surtout, lui avaient semblé d'une grâce parfaite. Ces comédies devaient représenter la France au naturel. Il n'y avait point, surtout, de ces marchands grossiers et raisonnables qui remplissent les comédies allemandes. « Mais que va-t-on dire de nous ?» reprenait Madame Langen. « Mais d'abord, qu'aura-t-on à dire de nous ? Qui s'intéresse assez à nous pour en dire du mal ? Dans cette heureuse ville, nous vivrons libres comme l'air. » « Oui, mais c'est encore là ce qui m'effraie. Te voyant libre comme l'air, tu seras plus singulière que jamais. » « Mais le général ne nous est-il pas qu'on peut espérer de réunir un peu, réussir un peu parmi ces aimables Français, qu'autant qu'on parvient à les étonner un peu ? Et pour frapper ces imaginations ironiques, ne faut-il pas qu'un étranger soit un peu différent de ce qu'ils s'attendent à le trouver ? Oui, certes, comme je te l'ai promis, je chercherai à cacher ce qu'il peut y avoir de singulier dans ma façon de penser. Mais d'abord, ce que nous appelons singulier doit être tout naturel dans ce pays-là. Et ensuite, si malgré moi on s'apercevait de quelque chose, ce sera une distinction et non pas un désavantage. Mais alors, pourquoi refuser la première des distinctions ? Tu sais que le général von Landeck nous a répété plusieurs fois que dès qu'un Français devient riche, il adopte un second nom, moins vulgaire que le premier. Pourquoi ne serais-tu pas Mademoiselle Wangen de Diefholz? Tu sais que cette terre est la plus belle de toute la Prusse orientale. Elle rapporte 40 000 thalers et ton père l'a achetée en ton nom il y a 18 ans, le jour de ton baptême. Oui, ma mère, mais un jour arrivera à Paris quelque bon négociant prussien qui dira que jamais à Königsberg n'a entendu parler de Mademoiselle de Diefholz. Et vois-tu, si j'avais à craindre de rougir de quelque chose, il me semble que je resterais muette. Je trouve impertinent les privilèges de la noblesse. Je quitte une patrie où ces privilèges m'offensent. Et ce serait être encore sous leur empire que de profiter du changement de pays pour donner à mon nom les apparences de la noblesse. Nous arrivons dans une ville où un seul quartier, dit-on le faubourg Saint-Germain, songe au manque de naissance. Eh bien, ne nous logeons pas dans ce quartier. J'espère bien être l'égal de tout le monde. Oserais-tu bien faire serment que tu n'espères pas être supérieure ? Reprit Madame Mangan en riant. Tels furent cependant le rapide voyage, les entretiens de Mina et de sa mère. Madame Mangan, à peine âgée de 46 ans, avait encore toutes les apparences de la jeunesse. De sa vie, elle n'avait voulu de mal à personne, ce qui lui donnait un certain air de bonté qui cachait un peu son esprit. Elle en avait infiniment, cependant, et surtout une loyauté parfaite qui lui montrait fort nettement les motifs des actions des hommes. Dans son inquiétude d'arriver sans connaissance à Paris, elle se faisait suivre par 6 domestiques fort dévoués et par une nombreuse argenterie. Malgré sa raison, Madame Wangen elle-même commençait à s'accoutumer à l'idée agréable d'arriver dans un pays où, à l'église, au spectacle, dans les lieux publics, elle n'aurait à souffrir de l'insolence officielle de personne. C'est que cette révolution que tout le monde désire passionnément chez nous, disait Mina, est déjà faite en France. À Königsberg, au moment d'entrer dans un salon, que de fois n'avons-nous pas été obligés de nous retirer rapidement et de faire une révérence respectueuse à quelques dames nobles qui se présentaient à la porte du salon en même temps que nous. Ni toi ni moi, nous ne pouvons nous trouver dans un salon où il y a une altesse. S'il en survient quelqu'une, il faut disparaître à l'instant. Mais y a-t-il beaucoup d'altesses à Paris ? Disait la bonne Madame Wangen. On vit enfin ce Paris tant souhaité. On y arriva par une belle soirée du mois d'avril. Après la visite de la barrière, la voiture de ces dames alla passer à la porte de leur banquier, M. le baron de Vintimille. Un commis les attendait et conduisit ces dames à l'un des plus beaux hôtels de la rue de Rivoli, dont l'appartement le plus cher était retenu pour elles. Mina fut ravie de l'aspect des Tuileries et de leur verdure naissante. Elle allait sortir pour se promener sous ces arbres magnifiques, parmi ces statues, chefs-d'œuvre des plus grands artistes. On sent qu'elle voyait tout en beau. Elle avait 18 ans, et le plaisir si doux de faire sa volonté. « Mais es-tu bien sûr de n'être pas fatiguée ?» disait Madame Wangen. Mina prenait son chapeau. Ce chapeau fort à la mode à Hambourg sera peut-être extraordinaire à Paris. On se moque de tout ici. C'est précisément à cause de leurs blâmes impertinents que j'aime ces aimables Parisiens. Cette froide raison à Königsberg ne ferait aucune attention au chapeau d'une étrangère. Et comme on discutait en riant sur le chapeau, M. le baron de Vintimille fit demander si ces dames étaient visibles. Ces dames se gardèrent bien d'être fatiguées. Il y a naturel une bonhomie charmante en Allemagne et en Italie, dont nous ne nous doutons pas. Donc, le baron entra. C'était un assez bel homme de 50 à 55 ans. Il avait une taille élégante, de grands traits, et pas du tout la physionomie basse et inquiète d'un homme qui compte des écus. Il était fort bien mis, sans recherche. Cependant, après quelques minutes, Madame Wangen trouva qu'il avait quelque chose d'inquiet et même de fou dans ses yeux. Il parlait beaucoup et bien. Mina l'accablait de questions, il y répondait avec plaisir. Madame Wangen lui demandait 3 ou 4 domestiques de bonne tenue, point bruyants et auxquels on put se fier. Il se chargeait de les trouver. Voici quel était ce banquier dont l'obligeance vous surprend sans doute. D'abord, il était allemand. Autrefois, il était protestant de religion et se nommait Isaac Willing. Maintenant, il se faisait appeler le baron de Vintimille, mais il en avait bien le droit. Le roi de, dont il venait de faciliter le dernier emprunt, lui avait fait remettre par son ambassadeur à Paris un brevet signé, contresigné, scellé, parfaitement en règle, et l'on avait laissé en blanc que le titre octroyé par Sa Majesté à l'heureux banquier. Un savant qui dînait chez M. Isaac Wenting lui dit que la maison de Vintimille était éteinte, que d'ailleurs il était mieux de prendre un titre un peu étranger à la France. « Eh bien, il faut qu'une maison qui commence soit modeste, » dit le banquier. « Je ne serai que baron. » Et il pria l'ambassadeur d'écrire de sa main sur le parchemin royal le simple nom de baron de Vintimille. Le nouveau baron dit à l'ambassadeur en le reconduisant, « Monsieur le comte, votre excellence ne sera pas surprise si pendant une année à compter de ce jour, La maison intimide ne prend aucune commission sur les traites tirées ou encaissées par vous. Je vois que le lecteur qui sait vivre trouve ce trait absolument hors nature. À quoi bon faire une dépense pour un bienfait accompli et que l'on ne peut ni révoquer ni augmenter? Mais le nouveau baron n'avait été homme d'argent que de nom. Il avait presque autant de vanité qu'un Français, aussi n'était-il qu'au 5e ou 6e rang pour les millions. Mais nul homme n'était plus content d'être baron, et en véritable Allemand, en croyant se faire bien venir des barons, ses nouveaux collègues, 8 jours après son élévation à l'ordre équestre, comme il disait, il abjura le protestantisme, ainsi que Madame la baronne, Mademoiselle leur fille et 2 ou 3 cousins travaillant dans la banque. Et le protestant, assez froid, devint un excellent catholique. Il pensa bien que ce trait diminuerait fort son crédit parmi ses anciens coreligionnaires, mais il avait plusieurs millions. Il voulait acheter des terres, bâtir un château, faire de nouvelles connaissances et enfin se retirer peu à peu des affaires et devenir pair de France. Le fait est qu'il avait été personnellement piqué de l'immense supériorité que le fameux N, banquier, régnant alors, affectait sur tous ses confrères. Le baron de Vintimille n'était presque plus un homme à argent. On ne sera donc pas surpris de ses procédés presque délicat envers les dames Wangen. Il cherchait réellement à leur rendre Paris agréable. Je vous conseille, mesdames, de n'avoir jamais qu'une 50aine de louis dans votre bureau. Je ferai pour vous ce que je fais pour personne. Je paierai vos dépenses envoyées chez moi avec un petit bon de votre main. Je vous enverrai un certain papier azuré que je fais fabriquer à Londres pour l'usage de ma maison, on ne saurait limiter à Paris. Sur ce papier, écrivez vos bons. Par ce moyen fort simple, n'ayant jamais d'argent chez vous, vous serez à l'abri des vols sérieux. Quant aux friponneries de détail, ce peuple aimable vous enlèvera 200 francs par mois en pièces de 20 sous. Mais mesdames, si vous voulez m'en croire, ne prenez jamais d'humeur pour si peu. Portez d'avance cette petite somme dans votre budget. Les Français subalternes nous voient avec une grâce et un respect parfait, tout à fait convenable. Quand ces gens-là ne sont même parfaitement comme il convient avec nous autres qu'au moment où ils nous volent. « Mais monsieur, y a-t-il opéra ce soir ?» dit Mina. « Oui, c'est vendredi, sans doute. » Opéra français, oui. Quoi, tu veux aller à l'opéra? Dit Madame Wangen. Si tu me le permets, ce sera un grand plaisir pour moi. Monsieur le baron, qui a des bontés vraiment fraternelles pour de pauvres étrangères qui débutent, enverra un de ces gens louer une loge. On fit tout cela. Le baron trouvait admirable l'enfantillage de Mina. « Que d'esprit, disait-il, elle n'est jamais ridicule et toujours si près de l'être. » Car il ne doutait pas un instant que toute cette amabilité ne fût une comédie. Elle doit être bien fatiguée le soir. Et le baron triomphait de la finesse de ses conjectures lorsqu'il vit Mina s'endormir profondément en admirant la 3e scène de la Juive. Les premiers 15 jours passés à Paris furent exactement comme la première soirée. Mina déclara à sa mère qu'elle passerait sa vie à Paris. Madame Wangen n'était pas tout à fait du même avis. Ce n'était point un esprit brillant, mais elle avait une sagacité singulière. Elle voyait tout et il eût été difficile de lui rien cacher. Mina était folle du théâtre français. Elle ne concevait pas pourquoi il n'y avait pas de foule tous les soirs. Le baron de Vintimille commençait à n'être plus si sûr de son admiration pour la jeune lady, comme il l'appelait, et il trouvait qu'il y avait de grandes fautes de calcul dans la comédie si agréable d'ailleurs qu'elle jouait avec tant d'aisance. Oh, elle ne produira pas tous les faits auxquels elle s'attend, disait-il finement à sa femme. Mais je n'ai jamais partagé votre admiration, répondait la baronne. Sa conduite n'est pas bien calculée, c'est une tête bizarre. Quelle est cette manie de ne vouloir jamais être mise avec tout le luxe qui a d'étroites convenances pour une personne si riche? Elle est au-dessous de sa position, où le ciel l'a placée. Oh, je suppose qu'elle vient ici dans le dessein d'épouser quelque duc français. Eh bien, quel est le jeune homme qui se respecte un peu et qui voudrait cet éternel négligé et de ses courses continuelles et horriblement fatigantes? Ben, ces dames n'ont rien dit à notre ami Bonnevin, le notaire, que j'avais introduit exprès dans leur intimité. Il en a été pour sa course à Chantilly, qui a duré 2 grands jours. Ces dames y allant, il a supposé une affaire importante à examiner dans les environs. Il a fait tout au monde pour se faire parler mariage. Ces dames ne lui ont parlé que du rang Condé. Mais vos lettres de Königsberg sont-elles toujours sur le même ton? Toujours, oui, pas la moindre faute d'orthographe dans la conduite de la mère ou de la fille. La fortune est même plus considérable que ce qu'elles disent. Et il n'est aucun jeune homme de ce pays qui ne fût ravi d'être choisi par Mademoiselle Wangen. Mais elle aurait été prise de quelque être inférieur et qu'elle ne peut pas épouser. Oh, c'est possible. Il faut bien qu'il y ait un pourquoi à cette conduite. Mais enfin, s'il faut tout dire, je ne devine point cette raison secrète. Ces dames ont-elles encore refusé notre dîner de mardi? Non, non, Madame Wangen a voulu accepter. Ah, nous verrons comment la superbe Mina sera mise. Le baron, ne voulant pas compromettre la sûreté de son coup d'œil, ne fit point dîner les dames Wangen avec ses nouveaux amis de la bonne compagnie. Il comprit bien qu'il faudrait leur expliquer Mina, et il trouvait trop simple et voisin du ridicule la seule réponse qu'il eut à faire, et qui mettait en fureur sa femme, la baronne de Vintimille. Elle est, ce qu'elle paraît, gaie, fort instruite et folle de Paris. Le dîner auquel il l'avait invitée n'était qu'un dîner de gens à argent. La plupart étaient nés pauvres, quelques-uns simples ouvriers, et comme le disait M. de Vintimille, ce n'en était pas moins un dîner de 20 millions. En fait, de gens insignifiants, c'est-à-dire ne comptant point dans les millions, il y avait un neveu du maître de la maison, chef d'escadron dans un régiment de lanciers, un chef de division au ministère de l'Intérieur, et un écrivain peu connu qui, en cette qualité, voulait entrer à l'Académie française. Lorsque M. de Vintimille entendit la voiture des dames Wangen, il rappela à ses hôtes qu'il allait avoir l'honneur de leur présenter une dot de 7 millions et une jolie figure, et courut recevoir ces dames au haut de l'escalier. Dites-moi les noms, et de grâce, faites-moi un peu de description, dit Mina, afin que je puisse comprendre quelque chose au discours. Le gros homme à lunettes et à cheveux plats qui sera à droite de la baronne de Vintimille a refusé un ministère il y a 6 semaines. Il est député, riche fabricant, oh, il sera ministre un jour. Un homme qui a une physionomie pétillante d'esprit sera à la gauche de madame de Vintimille. Par malheur, sa physionomie est une menteuse. Il ne sait pas dire un mot qui vaille. Il fait des spéculations peu brillantes, mais sûres. Et je l'évalue bien à 3 millions. Je placerai auprès de vous, mesdames, M. de Marmeville, écrivain célèbre. Ordinairement, il parle beaucoup, mais il y a une place vacante à l'Académie. Il craindra de se compromettre par des épigrammes sur des gens connus si probablement ne dira rien. Il y a une superbe épingle de diamant et à son jabot. Vous remarquerez, mesdames, un homme aussi qui, à côté du nez le plus ridiculement petit, a des yeux bleus également singuliers par leur grandeur. Oh, il était simple ouvrier chez Richard le Noir, il y a 20 ans. Oh, il a 4 millions aujourd'hui. C'est le plus riche fabricant de... en son genre. C'est un homme de la première ligne. Présentez-moi à lui particulièrement, dit Mina. Je veux en être connu. C'est un homme comme mon père. Quelle affectation, dit le baron. Son père a-t-il jamais été simple ouvrier? Mais je vous retiens, mesdames. De grâce, encore quelques mots, s'écria Mina. Ben, monsieur de très bonne compagnie, qui a plusieurs croix, et ne dira mot. C'est le général de Vars qui a une fort belle terre à vendre. Un monsieur qui a aussi 5 ou 6 croix, mais qui parle toujours. C'est monsieur Rota, l'un des plus brillants et des plus zélés capitaines de la garde nationale de Paris. Il est fabricant de... Le gouvernement le protège dans toutes ses entreprises et il est en train de doubler sa fortune actuelle qui est bien de 2 millions. Vous serez frappée, mademoiselle, de la figure d'un homme encore jeune, qui a une tête ronde et des cheveux extrêmement noirs. C'est un être fort vain, un beau diseur, s'écoutant parler et qui a l'air de dire aux malheureux qui essayent ces phrases vides que vous êtes heureux, mon cher, d'être en rapport avec un homme de ma sorte. Ce monsieur n'est rien moins que le baron Fanot, ancien chargé d'affaires ou ambassadeur auprès d'une petite cour d'Allemagne. Il a 3 millions, mais il est au désespoir de ne plus avoir sa place. Il a été trop faux, assure-t-on, même pour un diplomate. On l'a remercié comme gâtant le métier. Maintenant, il se jette dans l'industrie et achète des actions dans toutes les entreprises. Il nous donne des nouvelles et c'est tout ce qui se passe et se dit dans les ministères. Ah, j'oubliais M. Pommard. Oh, lui, c'est le plus riche propriétaire de la Bourgogne. Il paye 54 000 francs d'imposition. Tous les dimanches, il va à la messe avec sa mère. Il lui emprunte 2 sous pour payer sa chaise à l'église. Et je suis sûr qu'il ne le lui rend jamais. Celui-là, franchement parlé, c'est un vilain homme et qui porte son caractère sur sa figure. Nous faisons beaucoup d'affaires ensemble. Je lui disais un jour, il y a 2 ans, que je voulais acheter une certaine forêt dans les environs de Paray. Il ne connaissait pas cette affaire, qui était bonne en elle-même et qui me convenait beaucoup parce que j'ai une usine de fer dans les environs. Il partit en poste dans la nuit et alla acheter cette forêt. « Comment ? Et vous voyez un tel homme ?» dit Mina. « Sans doute. C'est moi qui suis un sot d'avoir parlé. Je lui ai donné un château de 20 000 francs et il m'a rendu ma forêt. » Le lecteur a peut-être trouvé cette liste bien longue. Mina, bien différente du lecteur, en s'était amusée. Et plusieurs fois, elle avait retenu par ses questions M. le baron de Vintimille, qui voulait donner la main à Mme Van Gun et entrer au salon. Elles y furent reçues avec des compliments infinis par Mme et Mesdemoiselles de Vintimille. On annonça bientôt le dîner. Le riche fabricant de tapis, futur ministre, donna la main à Mina, qui lui trouva l'air fort raisonnable. On se mit à table. Sur le champ, la conversation générale commença par une discussion serrée et chaudement conduite sur le caractère politique du célèbre M. N, qui la veille avait parlé à la Chambre avec un succès immense. Le capitaine de la garde nationale porta au nu l'ancien ministre. Parler de son éloquence, mais non de la fermeté de son système politique. Le capitaine répliqua chaudement. Nous ne pouvons être d'accord, lui cria M. Pommard. Vous parlez comme un homme qui fait des entreprises. Quant à moi, je me tiens au gouvernement que par les impôts que je lui paye. Mina trouva que la conversation commençait d'une manière cruellement grossière. Elle n'avait jamais rien vu de semblable dans les comédies de Marivaux. Bientôt, on se dit des choses bien autrement fortes. On eût dit que ces messieurs étaient sûrs de ne pouvoir jamais s'offenser. Et les physionomies étaient encore pires que les paroles. Le chef d'escadron de Lancier, neveu du baron, dit à Madame Mangen, sa voisine: Bon, ceci devient trop chaud. Ces messieurs oublient qu'ils parlent devant de belles étrangères. Oh, il faut que je dise quelques bêtises dont je vous demande pardon. Il raconta une histoire qui débutait bien et qui finit tout à coup par un mot qui était une grosse bouffonnerie et par un calembour. À l'instant, tous les invités déclarèrent, en parlant à la fois, que c'était un genre d'esprit pitoyable que le calembour. Chacun s'était mis à raconter, avec l'empressement le plus marqué, les calembours nouveaux que l'on pouvait espérer être écoutés par le voisin. Mina remarqua que deux ou trois calembours, que réellement personne ne savait, amenèrent un moment de silence complet. L'assemblée était invitée et occupée à les deviner, mais avec une anxiété visible. Le maître de la maison ne voulut pas qu'on parlât politique devant le riche fabricant, futur ministre, auquel à ce titre une telle conversation ne pouvait pas convenir. Il coupa un commencement de politique en demandant au capitaine de la garde nationale qui arrivait du Havre comment cette ville se tirait de la crise commerciale de l'Amérique. Bon, on y vend tout à vil prix pour sauver les cotons. Mais c'est Paris qui en souffrira. Ben, savez-vous que la maison Wolff, Tiger et compagnie a déclaré qu'elle n'accepterait aucune traite d'Amérique à compter d'hier lundi? À ce moment, six personnes parlaient à la fois. Il faut rendre justice à ces messieurs. Ils ne criaient pas, mais chacun parlait en appuyant sur les mots et en faisant remarquer qu'il était parfaitement sûr des choses qu'il avançait. Oh, cette façon de converser dura bien 10 minutes. Mina fronçait le sourcil. Tu as peur? Lui dit Madame Mangel en allemand. Puis il est vrai, je n'ai jamais vu d'être aussi grossier. Et le plaisant, dit Madame Wangen, c'est que c'est nous, Allemands, qu'ils accusent de grossièreté. Jamais chez ton père, où il y avait aussi des dîners de 20 millions, as-tu vu les hommes se parler de ces termes méchants et grossiers? Mais voilà qu'ils en sont presque au démenti, dit Mina un instant après. Ah, voilà qu'ils en sont presque au démenti, dit Mina un instant après. En effet, chacun de ces honorables capitalistes prétendait savoir mieux que son voisin ce qui se passait à Londres et surtout à New York, alors en pleine crise commerciale. Ah, je suis de l'avis directement contraire, disait M. Pommard. Je vous dis que les retours de la Nouvelle-Orléans se font en caissette de piastres. Oh, ça garde bien de prendre des traites qui coûterait 7 à 8%. Ce dîner jeta Mina dans une profonde rêverie. Madame Mangan remarqua même que cette disposition au silence et à la réflexion n'était point altérée par la brillante soirée qui suivit le dîner du baron de Vintimille. Le dîner avait été composé presque uniquement de gens à argent. La soirée réunit toutes les jeunes femmes de la connaissance du riche banquier. Elles n'avaient garde d'oublier un des plus magnifiques salons de Paris et surtout un des mieux peuplés. Ces dames arrivèrent presque toutes à la fois de 9h30 à 10h. Elles se placèrent des deux côtés de la cheminée. Les dames Wangen remarquèrent à leur grande satisfaction que l'on ne formait point un cercle régulier comme à la bourse. À mesure des arrivées, des conversations particulières s'établirent. Plus de 150 hommes parurent successivement. Les députés les plus jeunes et les plus influents, quelques généraux, des médecins, Quelques écrivains, cherchant comme ceux-ci à se faire connaître, en promenant leur figure comme un prospectus, passèrent successivement. Par malheur pour la curiosité des deux étrangères, on n'annonçait point chez Madame de Vintilly et Madame Wangen sur que plus tard les noms célèbres dont elles avaient vu la figure sans pouvoir la marier avec leur nom. Très peu de ces messieurs parlèrent aux femmes. Ce n'était pas assurément faute de loisir, car plusieurs erraient dans l'appartement et regardaient les tableaux. À l'occasion de son nouveau titre, le baron craignait mortellement les plaisanteries des petits journaux. C'est pour parer à cet inconvénient qu'il avait fait venir son neveu, le chef d'escadron, que Madame la baronne de Vintimille n'aimait guère. Cette mesure toute belliqueuse était de lui. Monsieur de Miossens, un grand personnage qu'il considérait beaucoup, lui avait dit « L'exposition des tableaux est contemporaine de votre nouveau titre. Achetez les tableaux, dont les auteurs ont du crédit dans les journaux, et que vous y verrez loués. » Monsieur de Vintimille avait saisi cette idée et il était partant, un protecteur éclairé des arts. Madame Wangen demanda les noms de certains jeunes gens fort bouillants et assez connus dans le monde, leur amabilité étant fort marquée envers Mina. Seule parmi les femmes, elle fut honorée de leur attention. Mais rien ne put la faire sortir d'un sérieux profond, tout à fait étranger à son caractère. Elle voulut rentrer à 11 heures, elle qui ne trouvait jamais que les soirées se prolongeaient assez tard. « Qu'as-tu donc, ma chère amie ?» dit Madame Wangen en montant en voiture. « La grossièreté de ces gens-là, » répondit Mina avec un soupir. « Me suis-je donc trompée ?» continua-t-elle d'une voix lente et pensive. « Sont-ce là ces aimables Français ? La société aimable que j'ai rêvée existe-t-elle sur la terre ?»« Quoi, ma chère Mina, tu n'es pas malade ? Rien ne t'a blessé, en particulier à ce dîner ?»« Non, oui, absolument. » Ah, tu m'ôtes un grand poids de dessus le cœur. Je craignais que tu n'eusses pris une passion soudaine pour ce riche monsieur ou pour son aimable antagoniste, le beau monsieur. Quelle grossièreté! Ah, maman, ne revoyons jamais ces gens-là. Mais sois juste, mon enfant. N'avons-nous pas obtenu les avantages matériels et positifs que nous refuse la société allemande? Est-ce qu'un futur ministre t'aurait parlé à Königsberg? Est-ce que nous trouvions à table avec des gens aussi considérables en Prusse que des députés à 100 000 francs de rente? En intriguant le soir en France, nous aurions occupé, toi et moi, les places d'honneur. Évidemment, ce soir, la société ne considérait aucune de ces belles dames qui sont venues plus tard comme valant mieux que nous par leur rang. Mais maman, Prusse, je n'ai jamais eu le cœur navré, comme je l'ai en ce moment. Dieu, quels êtres! Ah, si j'étais ma maîtresse, je crois que je repartirais à l'instant pour Königsberg. Mais, chère Mina, quelqu'un de ces gens a-t-il manqué de politesse à ton égard? Je t'ai jamais vu dans un état aussi violent. À ces mots, Mina partit d'un éclat de larmes. « Mais il vaut mieux se livrer à ces petits enfantillages, » dit-elle à sa mère, en s'efforçant de sourire au milieu de ses larmes. « Oh, cela passera plus vite. Plus à Dieu que j'eusse à me plaindre de quelqu'un en particulier. Ces gens-là me font horreur, » dit-elle en redoublant de larmes et cachant sa figure sur l'épaule de sa mère. Madame Wangen vit qu'il fallait causer avec sa fille et que cette crise nerveuse passerait plus tôt. Je t'ai vu pâlir à table tout à coup, mais la salle à manger était vaste et bien aérée, il ne faisait point trop chaud. Pour moi, j'admirais ces colonnes élégantes et ces petites fenêtres au-dessus des colonnes. C'est comme au palais du roi à Berlin. « Mais maman, mais que me font toutes ces choses physiques? La grossièreté de ces hommes !» Oui, j'ai eu aussi cette idée-là, en te voyant pâlir, mais ils n'élevaient point trop la voix en parlant. Même les tournures de leurs phrases étaient assez polies. Ah, plût à Dieu qu'ils se fussent emportés. Ils auraient une excuse, on en verrait moins le fond de ces âmes grossières. Ah, maman, as-tu vu leur physionomie? La profonde grossièreté de ces âmes contentes d'avoir de l'argent. Dieu, que doivent-elles ces gens-là dans l'intérieur de leur famille et lorsque rien ne les gêne? Ah, oh, maman, dit Mina en redoublant de larmes, chez quel peuple sommes-nous venus? Ah, tu vas donc une fois être juste pour notre pauvre Königsberg, dit Madame Mangen. Tu as vu dîner chez moi le jour de la fête de ton père? Les Jacobsen, les Wolfroth, les Steinberg, les Imperios, tout ce qu'il y a de mieux parmi les gens d'argent de la Prusse orientale. Certainement, ces gens-là, même sans y comprendre ton père, possédaient bien au moins 20 millions de leurs francs comme des gens d'aujourd'hui. Avaient-ils cette aigreur, avaient-ils ce ton profondément impoli au fond? Au milieu de la forte passion qui les possède, et dans leur ardeur de persuader à tous leurs voisins qu'ils sont des gens considérables. Les gens d'aujourd'hui n'avaient-ils pas l'air capables de tout faire? Voilà le mot, chère maman, c'est toi qui l'as trouvé. Et la politesse que ces gens à argent français étalent sur ce fond abominable me les rend que plus hideux. Non, dans quelque position que par l'imagination on essaie de placer ces gens-là, on les voit toujours agissant, suivant les règles strictes d'un égoïsme abominable. Ils veulent avant tout, et à quelque prix que ce soit, persuader à tous ceux qui les écoutent, primo, qu'ils ont beaucoup d'argent, secondo, qu'ils jouissent de la plus haute considération, et tertio, qu'ils ont beaucoup d'esprit. Alors te rappelles-tu la douce gaieté et la véritable bonhomie de M. Steinberg? De M. Wolfram, même du bon Jacobsen, quand ils étaient à table chez leur ami Pierre Wangen. Mais on peut dire que ceci forme un contraste parfait avec nos bons Allemands, répondit Mina. Elle ne continua pas sa pensée. Il faut donc retourner à Königsberg et renoncer à trouver rien de mieux. Sans doute, elle estimait les Steinberg, les Wolfram, les Jacobsen, mais elle les trouvait si ennuyeux, si soumis de cœur à tous les préjugés. Et par malheur, ce ne sont pas seulement là des hommes à argent de ce beau pays. Tu as vu à la fin, quand on est venu à parler de la question des sucres, que 7 de ces messieurs sont députés. Et comme tu sais, cet homme aux cheveux noirs et si courts, pour une Allemande qui était à la droite de Madame de Vintimille, a refusé le ministère. Je ne désire point voir des gens de la Chambre, dit Mina avec un peu d'humeur. En ce cas, tu verras des gens du Faubourg Saint-Germain pour lesquels tu ne seras qu'une bourgeoise. Pardon, chère maman, dit Mina en se jetant dans les bras de sa mère. Je crois que j'ai eu un peu d'humeur. Il faut avouer que ces Français-là sont un peu différents de ceux que j'ai connus. Dis de ceux que tu as vus agir dans les livres, car avouons-le. Ce monsieur de K, attaché à la légation de Paris, avait dissipé sa fortune en cherchant à faire effet, et n'eût pas été là fâché d'épouser 1 million de Mina. Il avait rendu plusieurs petits services à ces dames avant de faire des visites. Tout content, il avait enfin obtenu la permission de les voir. Sur les motifs de visite, rien n'est moins difficile que la bonhomie allemande. Après M. de K, ces dames n'avaient point d'autre connaissance que M. de Miossens. C'était un homme grave d'une cinquantaine d'années. Le lendemain du fameux dîner avec les hommes à argent, M. de Miossens vint justement voir ces dames. Cette visite fut la première consolation réelle que reçut le cœur ulcéré de Mina. Mina fut morte de douleur plutôt que de dire un mot de ses douleurs de la veille à un autre être que sa mère. Ainsi, M. de Miossens n'obtint aucune confidence à cet égard, mais son esprit pénétrant avait soupçonné la vérité, et sa visite, faite à 1 heure de l'après-midi, c'est-à-dire aussitôt après le dîner de la veille que les convenances se permettaient, n'avait d'autre but que de s'assurer de la vérité. Mina trouvait un plaisir intense à faire parler M. de Miossens. À chaque mot qu'il disait, ce digne homme prouvait à Mina apparemment que tous les Français n'étaient pas faits comme ceux de la veille. L'être qui lui démontrait cette vérité à Mina l'eût rendue bien heureuse. Or, c'est ce qu'après un quart d'heure de conversation, M. de Miossens lut dans son cœur. Il n'eut pas besoin d'une pénétration extraordinaire pour en venir à bout. Le cœur d'une jeune fille allemande est transparent, pour ainsi dire. Rien de plus facile pour l'homme habile appartenant à la civilisation française que de lire ce qui s'y passe. Mais aussi, cet homme habile est souvent bien étonné de ne pouvoir deviner ses mouvements à venir. La véritable candeur échappe à l'esprit trop fin, appartenant à une civilisation trop raffinée. Monsieur de Miossens était connu dans le monde pour avoir refusé l'évêché de Meaux que le duc de Montenotte, son ami intime, avait demandé pour lui à Louis XVIII et obtenu. Il avait converti monsieur le baron de Vintimille et sa famille. Il aspirait à convertir Mina. Monsieur l'abbé de Mossens était honnête homme, sans doute, mais avant d'être honnête homme, il désirait les succès de sa robe. Et après une genèse dont l'histoire était parfaitement inconnue, l'abbé de Miossens avait débuté dans le monde avec 6 000 livres de rente et s'était promis d'y remettre publiquement à l'administration laïque d'un hospice tout ce que le hasard pourrait jamais lui donner d'argent au-delà de ses 600 000 francs. Cette âme patiente, tranquille, immuable dans ses projets, n'avait qu'une ambition, qu'un plaisir au monde, celui de lutter avec ses simples forces contre l'irréligion et l'indifférence répandues en France. M. de Miossens était un homme fort bien fait. Il avait une taille gracieuse et fort bien prise. Ses cheveux blonds, très agréablement arrangés, commençaient à être mêlés de blanc. Il aurait eu une figure expressive si elle n'avait été cruellement maltraitée par la petite Vérole. La couleur générale de sa conversation, toujours pleine de mesures, était celle d'un homme d'infiniment d'esprit qui, pour certaines raisons, ne dit pas tout ce qu'il sait. Beaucoup de prêtres le blâmaient de ne pas paraître assez prêtre, mais il prenait en pitié ses propos subalternes. Convaincu que rien de grand ne s'opère sans l'union des efforts, rempli d'une soumission profonde envers Rome, le centre d'unité, muni de la haute approbation de ses chefs, rien ne lui était plus indifférent que les criailleries et les petits mauvais procédés du vulgaire de ses collègues. C'était lui qui avait fait baron le riche banquier protestant Isaac Weinting. Il avait correspondu à ce sujet avec le confesseur du roi de... M. de Miossens s'était effrayé des bienfaits que répand à Paris le corps des banquiers protestants. « Là, se disait-il, il n'y a pas indifférence. » Et il avait peur. La conversion des Vintimille ne lui avait coûté qu'un mot. Avec 8 ou 10 ans de procédés adroits et avec 200 000 francs de charités habiles, on pouvait se faire souffrir de la noblesse française, mais tout ce qui était âgé et riche parmi cette noblesse était dirigé par des prêtres catholiques qui, dans ces temps de combat, étaient obligés en conscience à s'opposer à toute importance que pouvait acquérir une famille protestante. M. de Miossens espérait un peu que Mina et sa mère, séduites par les agréments de Paris, s'y fixeraient. En ce cas, Mina voudrait épouser un duc. Et M. de Miossens avait deux ou trois ducs assez indifférents en matière de religion, qui n'eût pas été fâché d'enchaîner en leur disant nettement un beau jour « La religion catholique et romaine vous donne une dot de 7 millions et une fille charmante et pure. À ce prix, voulez-vous être son homme ? Je vous demande, croyant ou non, votre parole d'honneur à cet égard. » Cette visite donna à l'abbé la crainte profonde que Mina ne voulût retourner en Prusse. Il croyait voir en Madame Wangen la mère ordinaire d'une fille fort riche, à ce titre menée par des intrigues, ayant envers sa fille une politique profonde et commençant toujours par être d'une fausseté parfaite à son égard. Il ne doutait pas que Madame Wangen ne voulût avant tout retourner à Königsberg. L'abbé ne comprenait pas le moindre mot à l'âme parfaitement pure de la mère et de la fille. L'abbé vit avec tout l'étonnement d'une âme raisonnable et calme l'éloignement passionné pour la France que la soirée de la veille avait jeté dans l'âme de Mina. Ce qu'il voyait était si étrange qu'il craignit de se tromper. Il conseilla fort à ces dames de prendre une demi-loge à l'opéra, une autre demi-loge aux Français, et leur fit espérer une loge pour les représentations qui restaient de la saison des bouffes. Le baron de Vintimille avait présenté M. de Miossens aux dames Wangen comme un ecclésiastique homme du monde, aimable et d'un commerce parfaitement sûr. C'était, comme on le pense bien, M. de Miossens lui-même qui avait dicté les paroles de cette présentation. Comme il sortait de chez ces dames, entra chez elles un homme bien moins recommandé, mais bien autrement honnête. C'était un simple maître de littérature, le vénérable M. Yecky. Il eût été difficile d'avoir plus d'esprit et de résignation à son sort modeste que ce petit homme à la mine chétive et qui, par choix, faisait le métier de courir le cachet. On lui donnait 10 francs par heure, et il lisait avec Mina les caractères de la Bruyère. Il savait un peu d'allemand, et s'assura à diverses reprises si Mina comprenait la malice souvent cachée des phrases du fameux prosateur français. À son grand étonnement, il s'assura que Mina comprenait ce qu'elle lisait. « Génie étrange !» se dit à lui-même le vieux maître de littérature. « Elle se lève doucement pour aller observer 2 moineaux qui viennent manger sur le balcon les miettes de pain qu'elle y a placées, et elle comprend la Bruyère. » Le professeur Yecky trouva Mina fort triste ce matin-là. Elle ne s'était pas levée encore une fois depuis 3 quarts d'heure que dura la leçon, pour aller observer les moineaux qui volaient sur ses fenêtres, des grands arbres, des Tuileries, lorsque, dans ses explications de la Bruyère, il arriva au maître de dire « Dans cette ville de Paris, qui avait 500 000 habitants du temps de Napoléon, et qui en a 1100 000 aujourd'hui, il se trouve de toute espèce de gens. Oh, ce qu'il y a de pire, ce qu'il y a de mieux. Percé par la pensée le mur du salon d'une maison, vous trouverez dans la pièce correspondante au même étage, de l'autre côté du mur, des gens d'un caractère parfaitement opposé à celui des gens réunis dans le premier salon. « Vous croyez ?» dit Mina en changeant de couleur. « Sans doute, » reprit le professeur. « Ce qui fait du Paris actuel une ville unique au monde, c'est qu'il renferme ce qu'il y a de mieux et de pire en tout genre. Les gens médiocres, plats et sages, sont les seuls qui n'aient peu d'attrait pour Paris. Mais dites-nous, monsieur, parce que tel salon renferme ce qu'il y a au monde de plus grossier, de plus vulgaire, de plus dégoûtant, si ce n'est pas une probabilité pour trouver pareille population dans le salon voisin. Oh, mais mademoiselle, ou vous avez joué de malheur, ou bien vous n'avez pas daigné donner toute votre attention. Ces gens vulgaires, grossiers, etc., etc., était remarquable par quelque supériorité. « Bravo, monsieur le professeur !» s'écria Madame Wangen. Vous battez ma fille. Maman a raison, monsieur, dit Mina. Ces gens avaient la supériorité de la richesse. Eh, mademoiselle, ce sont ceux-là qui me font vivre et qui m'impatientent. Sans cette classe, mes leçons seraient encore à 3 francs comme du temps de l'Empire. Paris fourmille de ces gens riches qui, à toute force, veulent comprendre la Bruyère et assister aux premières représentations de M. Scribe. Mais ils ne peuvent pas. Leur attention à 20 ans était ailleurs, et l'homme n'est jamais pendant toute sa vie que le développement de ce qu'il était à 20 ans. Je vais m'exposer à un ridicule, le plus plat de tous, celui du professeur qui flatte son élève, mais la vérité pure, c'est qu'aucun de mes élèves ne comprend la Bruyère comme vous, mademoiselle. Et comme vous n'avez pas 20 ans, j'ose espérer que vous serez une femme d'esprit toute votre vie. Madame Wangen eût embrassé M. Yeki si elle eût osé. Elle admirait sa petite perruque brillante de propreté serrée sur sa tête. Puisque vous avez de la bonté pour moi, monsieur, dit Mina, expliquez-moi bien cette variété des salons de Paris. Pour qui a des yeux à la tête? Rien ne se ressemble davantage que les passions, ou plutôt que la passion unique qui fait mouvoir tous ces cœurs parisiens. C'est l'envie de paraître justement un peu plus que ce qu'ils sont. La très bonne compagnie se distingue par cela qu'elle veut toujours paraître, mais seulement paraître ce qu'elle est. Mais cette vanité, cette unique passion, s'appliquant à toutes les positions de la vie, amène les effets les plus contraires. Dans le salon dont vous parlez, mademoiselle, et qui ne semble pas vous avoir enthousiasmé, il paraît qu'on voulait paraître riche. Eh bien, pendant assez longtemps, après la révolution de 1830, dans les salons de la meilleure compagnie de France, on a cherché à paraître pauvre, ruiné, abîmé. C'était bien toujours la volonté de paraître, mais ces salons étaient absolument contraires à celui qui, si vous me permettez de le deviner, semble avoir si fortement choqué mademoiselle Wangen. Le maître prit congé modestement. Son heure était passée. Mais voilà un homme qui vient de vous sauver une soirée bien sombre, n'est-ce pas, Mina ? Dit madame Wangen en riant. Crois-tu d'ailleurs qu'à Paris, on peut trouver une telle conversation après un mois de séjour seulement et pour 10 francs? Un tel homme à Königsberg serait le roi de nos professeurs d'esthétique. Mais il serait fraf et bientôt prendrait le ton grave, on n'oserait plus parler de certaines choses et tomberait tout simplement dans le genre ennuyeux. Allons, je le vois, dit Mina gaiement. Mon pari vaut encore quelque chose. L'ambassadeur de Prusse présenta mesdames Wangen au roi et à la reine et au ministre des Affaires étrangères. Les personnes pour lesquelles ces dames avaient des lettres de recommandation, les recevant avec grâce, les engagèrent à dîner. Ces dames rendirent leur visite dans les détails convenables. « Sais-tu, Millet, disait un jour madame Wangen en sortant de chez madame la présidente B, une des maisons de la robe où l'on recevait le mieux, sais-tu que... quoique nous nous croyions, et je pense avec raison, fort supérieurs au général von Landeck, nous commençons à partager son sort. Nous allons dégringolando. Assurément, nous ne saurions sur quoi faire des plaintes. Rien ne manque à la politesse parfaite de ces aimables Français. Tu as raison, maman. Nous serions bien peu dignes de vivre avec des gens d'autant d'esprit si nous ne nous rendions pas justice. Notre présence gêne et jette du froid. Ces dames firent leur examen de conscience et cherchèrent si elles n'avaient point à se reprocher quelques blâmes imprudents des usages français. Les Français sont trop frivoles en ce genre pour s'offenser de quelques blâmes de leurs usages, comme ce monsieur arrivant d'Italie, racontant l'autre jour ce qui lui était arrivé à Venise. D'ailleurs, nous allons dans 8 maisons et l'effet général partout. Ces dames consultèrent M. le baron de Vintimille, mais avec tous les ménagements possibles. La baronne de Vintimille était une des femmes auprès desquelles leur chute était le plus visible, et elles n'eussent pas voulu pour tout au monde avoir l'air de lui faire des plaintes. Ce fut aussi avec des ménagements infinis et une politesse bien supérieure à ses façons d'agir d'ordinaire que le baron fit entendre que, concentré absolument dans la grande affaire de transformer la fortune et la position d'un banquier en celle d'un grand propriétaire, il n'oserait donner à ces dames un conseil qui pourrait avoir les suites les plus graves. Il devait se borner à une tâche qui aurait toujours ses premiers soins, celle d'arranger leurs intérêts d'argent de façon, premièrement, à ce qu'elles perdissent le moins possible sur le change entre Königsberg et Paris, et, deuxièmement, à ce qu'à Paris même, elles fussent trompées le moins possible. Le banquier abrégea sa visite d'une façon significative. Eh bien, maman, dit Mina, quand il fut sorti, c'est clair, nous avons la peste, cela rend notre position piquante. Jouissant de la demi-loge que nous avons eu le bonheur d'obtenir au théâtre italien de l'obligeance de M. Robert, allons quelquefois à ces cours particuliers de chimie et d'astronomie, auxquels l'obligeance du correspondant de notre célèbre Gauss nous a fait admettre en un mot. Jouissons des plaisirs qui à Paris sont accessibles à tout le monde, et voyons venir. Notre prudence saura bien, ajouta Madame Wanghem, diminuer peu à peu la fréquence de nos visites et découdre sans déchirer, comme disait hier le bon monsieur Yeki en te donnant une leçon sur les proverbes français. Monsieur l'abbé de Miossens s'avait fait entendre à ces dames, avec une adresse infinie et peut-être trop remarquable, car elle fut remarquée par Mina, qu'elles seraient peut-être exposées à un genre de monomanie qui devient fréquente à Paris, à mesure que l'on s'aperçoit en Europe que Paris est encore la ville qui est le moins gâtée par les aigreurs de la politique. L'adroit abbé voulait parler du gentilhomme ruiné et dont le talent suprême est de savoir dépenser avec grâce une grande fortune qu'il n'a plus. Ce genre d'homme, qui possède dans un degré idéal le talent du majordome, allait bientôt tomber de toutes parts sous les pas de Madame Wanghem et de sa fille. « Eh bien, monsieur l'abbé, nous verrons leur adresse, » dit Mina, qui n'était pas fâchée de dérouter un peu les idées de monsieur de Miossens, qui lui semblait avoir mis trop d'adresse à cette communication diplomatique. Madame Wanghem regarda sa fille. Elle savait qu'elle avait une horreur qui allait jusqu'à la monomanie pour l'idée qu'on lui faisait de la cour à cause de ses millions. Inconnus comme nous le sommes en France, maman et moi, continuait Mina, nous devons nous attendre à un peu d'abandon, avoir un peu de solitude autour de nous. Si dans les commencements des gens dignes d'être appréciés nous recherchent à cause des millions, c'était la phrase de Mina en parlant de sa fortune, je pense que maman et moi ne nous apercevrons pas de ce genre de succès peu flatteur, il est vrai pour nos qualités personnelles, mais enfin qui nous sauveront de la solitude tant qu'on n'aura pas la gaucherie de nous y rendre attentives, de nous en faire apercevoir malgré nous-mêmes. L'abbé de Miosin s'était étonné et bientôt mit un terme à sa visite. C'était l'habitude de cet homme sage et parfaitement conséquent dans sa politique, toutes les fois que quelque chose d'imprévu se présentait à lui. « Eh bien, ma fille, il me semble que tu as pris tout à coup des sentiments bien vulgaires. » J'ai cru m'apercevoir que M. l'abbé avait des projets. J'aime autant qu'il ne voit pas aussi clair dans les nôtres. Mais nous disions un jour chez Madame de Vintimille que nos projets étaient de ne pas choisir un mari pour toi avant que tu n'eusses atteint ta 20e année. Tu sembles dire le contraire aujourd'hui. Peut-être. Monsieur de Miossens n'a pas eu connaissance de notre mot de l'autre jour. Peut-être, si on le lui a rapporté, y aura-t-il vu une précaution destinée a diminué l'anxiété un peu trop visible de Madame de Vintimille, qui ce jour-là avait presque l'air de dire que ma présence allait dérober à ses filles les époux qui pourraient leur échoir. Dans une de ses visites, M. l'abbé de Miossens fit entendre à Madame Mangan que, puisque la question d'argent n'en était pas une pour elle, il serait bien, ayant une fille si jeune et surtout douce, douée de tant d'agréments extérieurs, de s'adjoindre une dame de compagnie. Mais il ne faudrait point une personne payée. Il serait à désirer que l'on pût trouver une parente éloignée, ou du moins une personne décente que l'on peut présenter au monde comme une parente. Madame de Wangen ne répondit point à cette ouverture. Elle eut l'air de n'y voir qu'un propos ordinaire, et bientôt l'on parla d'autre chose. Mais à peine Monsieur de Mursins fut-il sorti, qu'elle tint conseil avec Mina. L'idée est sage et bonne. Appelons notre cousine Strombeck. Elle nous aime comme nous l'aimons. Elle est sage et prudente. Peut-être est-elle encore un peu jeune, n'a pas 30 ans. Mais les longs malheurs, suite de son mariage avec un seigneur de la cour, lui ont valu une connaissance du monde bien supérieure à son âge. Où pourrions-nous trouver un cœur de femme qui nous aime comme celui-là? Nous pourrons penser tout haut avec elle. Mais elle, qui s'est si mal trouvée d'un époux grand seigneur, ajouta Mina, elle pourra nous donner des idées dans l'art de repousser honnêtement tous ces secrétaires d'ambassade qui se présentent à cause des millions. Justement, ce soir-là, le ministre de Prusse avait fait annoncer à ces dames que dans la nuit, un courrier extraordinaire partirait pour Berlin. Madame Stromberg reçut avec une joie folle l'invitation de ses riches cousines. Elle avait à peine 3 ou 4 000 livres de rente, unique reste des 800 000 francs de dot qu'elle avait apporté à Monsieur de Stromberg, un des seigneurs de la cour de Berlin, qui à 36 ans était mort d'épuisement et tout à fait ruiné. Il sembla, Madame de Strombeck, être encore dans ses jours de fortune. Elle prit la poste de Königsberg à Hambourg et en 10 jours arriva à Paris par le bateau à vapeur du Havre.